On va continuer notre méditation et je vous invite tout de suite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Marc au chapitre 16 sur le thème de l'autorité en Jésus-Christ. Alors la semaine dernière, on avait eu l'occasion de définir ce que c'était, mais on va relire notre texte de référence, Marc chapitre 16, et on a fait exprès de commencer à partir du verset 14. Parce qu'effectivement, avant de nous encourager à rentrer dans la puissance que Dieu nous accorde, il nous avertit d'une chose de manière très solennelle. Et c'est ce qu'il fait au verset 14. Il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Vous savez, les 11, ceux qui ont suivi Jésus partout, ceux qui ont vu les résurrections, ceux qui ont vu les guérisons, ceux qui ont vu de manière instantanée des lépreux devenir purs. Et il leur dit, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter, ceux qui leur avaient raconté. Jésus est ressuscité. Oh, t'es sûr? Oh, tu sais, Jésus, il est vivant. Oh, t'enflamme pas, hein? Mais si, on l'a vu. Moi, je crois que...
Qu'est-ce que je vois?
Mais on peut avoir la même mentalité, vous savez. Parce qu'on peut s'habituer à entendre des choses, même à hocher de la tête, mais le cœur peut s'endurcir. Et finir par adhérer intellectuellement aux choses. Mais ça ne va pas plus loin et on ne vit plus les choses. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, des enfants jusqu'aux vieillards. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est la foi. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles. Alors, comme on connaît un peu le texte, je me permets de faire des petites coupures. Comprenez que ce mot-là aurait été pour nous plus percutant. Est-ce que tout le monde a le mot miracle dans sa Bible d'ailleurs?
Les signes.
Oui, miracle.
Signe.
Signe.
Voilà, c'est un peu plus parlant. En fait, ce n'est pas miracle, vous savez, on a parlé des dons de miracle. Ok? C'est pas ça. Là, c'est voici les signes. Voici les marques, on pourrait même dire voici les preuves, voici la signature. Vous comprenez?
Oui.
Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire qui survient, c'est au contraire ce qui s'associe à. C'est un signe, c'est une marque, c'est une identification, c'est une preuve. D'ailleurs, c'est Paul qui dira voici les preuves de mon apostolat par des signes, des prodiges, des miracles. Et bien, c'est le même mot, c'est les preuves. Donc là, quand il nous dit, voici les miracles, n'attendons-nous pas dans nos vies à ce qu'il se passe de temps en temps quelques miracles qui arrivent comme ça. Ça vous arrive souvent des miracles? Pas quotidien, enfin pas forcément. Mais là, il nous est parlé des signes, une signature. Et ça, ça doit être du quotidien. Ça doit faire partie de notre vie. Voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Mathieu, t'as essayé cette semaine? Est-ce que tu as fait le test numéro 4 ou 5? S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Il est où Mathieu? C'est bon?
Non,
maman, t'as rien fait? T'as pas préparé un petit truc pour ton fils? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, ne faites pas le test pour savoir si vous êtes dans la foi. Attendez l'explication, après vous vous amuserez chez vous. Merci. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu, symbole de l'autorité toute puissante qu'il a reçue. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Les disciples allèrent prêcher partout, partout, partout. Pas seulement là à l'église. Sur leur lieu de travail, dans la rue, dans leur sport, dans leur rencontre, à l'école, dans les lycées. Partout. partout ils parlaient de Jésus. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes. Là aussi, c'est le même mot, par les signes.
Oui.
Là, on est plus encore dans le miraculeux ponctuel. Tiens, il se passe un truc. Ça devient encore des signes du quotidien, du normal. Le surnaturel doit être la normalité de la vie du chrétien. Le monde vit dans le normalité, dans l'ordinaire. Nous sommes appelés à vivre l'extraordinaire. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Alors la semaine dernière, je fais un rapide rappel. Nous avons vu que la Bible parle de différentes autorités. Une autorité humaine, qui est plutôt la notion de la relation. Une autorité occulte. C'est comme ça que les autorités sont appelées pour parler des mauvais esprits. Et une autorité qu'on qualifie de spirituelle. Et c'est celle qu'on est en train de parler, c'est-à-dire la force, le pouvoir que Dieu nous donne. Nous avons vu également que l'autorité spirituelle n'a rien à voir avec une toute-puissance. Nous ne sommes pas des petits dieux et on fait ce qu'on veut, non. Au contraire, nous sommes appelés à dépendre de Dieu. Jésus lui-même disait « Je ne fais rien de moi-même, je ne fais que ce que le Père me demande de faire. » L'autorité n'a rien à voir avec l'autoritarisme, ce caractère à vouloir imposer, à avoir le dernier mot, rien à voir avec tout ça. Jésus était qualifié de doux et de humble. Et pourtant, par son assurance, et par la vérité qu'il communiquait, il y avait cette autorité spirituelle. Et ça, c'est tellement important de trouver ce parfait équilibre. Rien à voir non plus avec des caprices. Au nom de Jésus, hein ! Oh, tu es qui ? Il n'y a pas de caprice. Et on a vu que l'autorité que Dieu nous donne, c'est lié à quoi ? À la mission qu'il nous a donnée. La mission que Dieu nous a donnée, nous avons une autorité parce que nous avons un mandat, parce que nous avons un travail, parce que nous avons un job qui est celui de... Quel est notre job sur Terre ?
Propager
le message de l'Évangile. Nous avons tous dans nos fonctions professionnelles une autorité, un pouvoir. Notre patron... Nos chefs nous ont donné un certain pouvoir, une certaine latitude d'exécution, de direction, d'initiative, mais afin que nous remplissions notre travail à laquelle nous sommes pour le travail pour lequel nous sommes appelés. C'est ici que ça se passe, hein, vous inquiétez pas, Claude, il va s'en arranger, vous inquiétez pas. Nous avons une autorité parce que Dieu nous a donné un mandat, un travail à faire. Et cette autorité est liée à ce travail. On aura l'occasion de revoir ça, mais c'est la même pensée. Quand il est écrit en Actes chapitre 2, verset 8, il est écrit quoi ? Actes chapitre 2, verset 8, ça c'est des versets. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Vous recevez une puissance pour annoncer. Et on aura l'occasion de revoir ça. Actes chapitre 4, ils sont en pleine réunion de prière. Et les disciples sont en train de prier. Ils disent, oh Seigneur, donne à tes serviteurs une pleine autorité, une pleine assurance, afin que ta parole soit annoncée. Et accompagne tout ça par des miracles et des prodiges. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Il y a une autorité que nous avons, mais qui n'est pas une question de caprice. L'autorité que Dieu nous donne, c'est pour remplir notre vocation de disciple et d'annonciateur. Et puis nous avons vu qu'effectivement, la notion d'autorité... Ah oui, c'était pas une approbation divine, vous vous rappelez, hein, ces gens qui disaient « Ah Seigneur, est-ce qu'on n'a pas chassé des démons ? Est-ce qu'on n'a pas guéri ? Est-ce qu'on n'a pas prophétisé en ton nom ?» Il y a l'autorité que nous recevons et après il y a notre vie de disciple. On s'était étonné, mais comment ça se fait que la Bible nous dit que c'est Dieu qui établit les autorités et que les autorités font n'importe quoi ? Oui, Dieu établit l'autorité, c'est lui qui décide. Mais chaque être humain, chaque homme, chaque femme rendra compte de sa propre vie. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre miracle, guérison, signe, puissance et sanctification de la personne. Il y a des gens qui font des miracles et des prodiges et quand ils seront devant Dieu. Jésus leur dira comme en Matthieu chapitre 7, verset 22, « Je ne vous connais pas. » Mais on a fait des miracles ! Oui, c'est vrai. Enfin, c'est pas toi qui as fait les miracles, c'est moi qui les ai faits. Toi, je te demandais de vivre dans la sanctification, dans la sainteté, dans la vérité. dans l'unité, dans la grâce, dans le pardon. Qu'as-tu fait de tout ça? Et c'est ça qui a de la valeur devant Dieu. Et ce n'est pas, l'autorité n'est pas une approbation divine. Et puis on avait vu, voilà, ce qui est réellement l'autorité, c'est une force d'influence. Vous serez la tête et non la queue. Vous serez les décideurs, les influents et non les victimes de votre vie. Vous serez les chefs de votre vie et non pas ceux qui sont victimes de votre vie. C'est cela, être la tête et non la queue. C'est ça que Dieu veut nous donner. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes qui ne soyons pas des prisonniers des circonstances. Comme dit l'apôtre Paul, je ne me laisserai asservir, prisonnier par quoi que ce soit, non. On veut être libre. Je ne veux pas me laisser manipuler par mes sentiments, par mes goûts, par les circonstances, mais je veux être le chef de ma vie, je veux être directeur, initiateur de ma vie, et je ne veux pas subir ma vie. Amen. Et c'est le sens de cette puissance spirituelle que Dieu nous a donnée. Alors, avant de nous engager dans les domaines, il est surtout important que nous comprenions ce matin quel est notre position spirituelle. Si nous ne comprenons pas notre position spirituelle, nous ne comprendrons point quel est le combat spirituel. Éphésiens chapitre 2 verset 6, il est écrit: Christ nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Notre position spirituelle n'est pas là seulement le fait d'être dans l'Église, mais spirituellement nous sommes associés avec Christ dans les lieux célestes. Et on a vu tout à l'heure que Christ est associé à la droite de Dieu, qui est le symbole de l'autorité spirituelle. En fait, Dieu nous a associés complètement, il nous a associés, nous sommes unis à lui dans son autorité spirituelle. En français, Bible courante, peut-être que certains l'ont, il est écrit « dans notre union avec Jésus-Christ ». Notre union, notre attachement. Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire, écoutez cette phrase-là, pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Et c'est ça notre position spirituelle. Et c'est là qu'on a besoin de retirer tous nos carcans d'incrédulité et toute notre dureté de cœur, mes bien-aimés. Parce qu'on est tellement pris par les fardeaux, les soucis, les contrariétés, les lacunes, les manquements, que de temps en temps, on est là. On ne dépasse pas la stratosphère. Mais la réalité, c'est que Dieu nous a installés dans son règne, avec lui. Nous régnons avec lui dans le monde spirituel, dans le monde céleste. En Colossiens chapitre 3 verset 3, il est écrit: votre vie, mes bien-aimés, notre vie de chrétien, notre vie spirituelle, notre vraie identité spirituelle est cachée avec Christ en Dieu. C'est là que nous sommes. C'est là. Vous connaissez les poupées russes là? Ça s'emboîte, ça s'emboîte, ça s'emboîte, ça s'emboîte. Et bien là, nous on est dans le cœur du cœur du cœur. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre vraie vie, ce n'est pas notre chair. Ce n'est pas notre corps. Notre vraie vie ne se trouve pas dans nos émotions, dans nos ressentis. Notre vraie vie, elle se trouve dans nos positions spirituelles en Jésus-Christ. Si vous vivez en fonction de vos ressentis, si vous vivez en fonction de vos courbatures, si vous vivez en fonction des contrariétés de la vie, alors oui, vous ne dépasserez pas la stratosphère. Mais la réalité, pour quiconque a confessé ses péchés, pour quiconque dit: Seigneur, rends dans mon cœur, viens dans ma vie, alors le Seigneur nous fait asseoir avec lui, afin que nous régnions dans le monde spirituel. Ce n'est pas moi qui le dis. Même si j'avais à le dire, je pourrais pas inventer de telles choses. Mais c'est une place, c'est ça notre position spirituelle. J'ai voulu prendre une image que on va voir tout de suite sous vos yeux, sur le mur. Oh, mince, c'est mal cadré. C'est pas de ta faute, c'est moi. C'est quoi ?
Une cible.
Une cible. Quelle est la flèche qui a gagné ?
La bleue.
Quelle est la flèche qui a le moins de points ?
La rouge.
Ok. Donc vous connaissez très bien le principe d'une cible. Ça, c'est notre position spirituelle. Nous sommes Si je vous dis cette phrase, et à quoi vous l'associez? Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. À votre avis, notre place, elle est où? Elle est au centre. Amen. Dieu nous a mis au centre. Nous sommes dans le cœur du Seigneur. Et quand nous sommes convertis, quand nous avons donné notre cœur au Seigneur, nous avions très bien réalisé ça. Nous avions l'impression de découvrir la plus grande des libertés, la plus grande des forces, la plus grande des joies. Jamais nous avions goûté un truc comme ça. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes cette flèche bleue. Spirituellement, le Seigneur nous a placés là. Et vous savez ce que fait le diable? Eh bien, tous les jours. Il vous fait croire, il nous détache. Il nous détache de ce centre et il nous en éloigne. Et c'est là qu'on commence à dire, oh, c'est bizarre la vie chrétienne. Vous comprenez le jeu du cible? Vous comprenez l'image de la cible? Spirituellement, Dieu nous a déjà placés au cœur du cœur. Et c'est là qu'on a le maximum de points. Amen. Et bien spirituellement, c'est pareil. Si nous voulons être fortifiés dans notre autorité spirituelle, il faut que nous nous replacions au cœur du cœur. Il faut que nous reprenions notre place spirituellement par la foi. Parce que nous le sommes déjà en réalité. Mais c'est le diable qui nous attire. Il va faire une multitude de choses par les soucis, par les richesses, par les doutes, par la peur, par l'anxiété, par l'orgueil, par le matérialisme, par la routine, par la paresse, par la culpabilité, par toutes ces choses-là. Il va essayer de nous déplacer. Et on finit par être toujours dans la cible. Mais on n'est plus au centre. On n'est plus par la foi à l'épicentre de la puissance spirituelle. Et certains même, n'ayant pas conscience du combat spirituel. Vous vous rappelez ce que dit Paul? J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai gardé ma position de foi. J'ai gardé ma position acquise en Jésus-Christ le jour où j'ai confessé mon péché. Mais c'est ça, notre seul combat spirituel, c'est de demeurer en Jésus-Christ. Jean chapitre 15, versets 4 et 7, c'est Jésus qui le dit. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Si mes paroles demeurent en vous, je demeurerai et vous demeurez avec moi. C'est la seule chose que le Seigneur nous demande de faire, de rester avec lui, collé au centre. Et quand il y a quelqu'un qui veut nous pousser, nous chahuter, nous donner des coups de pied ou nous chatouiller, nous attirer vers l'extérieur, nous devons demeurer en Jésus-Christ. Parce que si nous ne demeurons pas en Jésus-Christ, c'est là que l'on commence à perdre de l'autorité spirituelle. C'est là que notre extraordinaire vie spirituelle devient une vie ordinaire, fade, morose. Et certains finissent par quitter complètement la cible. Ils ne viennent plus que par tradition, par religiosité, mais leur cœur est mort. Leur expérience au quotidien est néant. Ils ne gagnent plus d'âme, ils ne sont plus enthousiastes, ils n'ont plus la joie, ils n'ont plus la grâce, ils n'ont plus la félicité. Tout ce qui les occupe, c'est leurs préoccupations de chaque jour. Ils finissent par être accablés par les circonstances du monde et ne sont plus dans la joie, dans la profondeur, dans la richesse du Seigneur Jésus. Colossiens chapitre 2, verset 10 nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Amen. Celui qui a la flèche rose là, il a moins de points que celui qui est au centre. Et dans notre vie, nous devons réaliser que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tout ce dont nous avons besoin, on le trouve en qui?
En Jésus-Christ.
J'ai besoin de joie? Seigneur, je veux revenir au centre. J'ai besoin de force? Seigneur, je veux revenir au centre. Vous avez besoin de décoller émotivement, spirituellement, de manière affective. Rapprochez-vous du centre. Vous avez besoin de renouvellement spirituel. Vous avez besoin de compréhension spirituelle. Vous avez besoin d'expérience spirituelle. Revenez au centre. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure, non? Sois le centre, sois mon feu, sois mon vent, sois ma sang, sois ma source. Christ nous a déjà placés en lui. Mais nous devons faire attention à mener le bon combat de la foi et à ne pas nous laisser attirer et perdre notre terrain spirituel. Il y a une autre chose qui est intéressante à réaliser spirituellement. C'est que cette place que Dieu nous a acquise au centre, où nous avons tout pleinement, où nous n'avons besoin de rien chercher à l'extérieur parce qu'en Jésus nous trouvons tout, moralement, spirituellement, physiquement. C'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Ne nions pas le travail de la médecine. Merci pour les médecins, merci pour les médicaments. Mais notre première position spirituelle doit être l'attente de l'intervention de Dieu. Amen. Après, si Dieu veut qu'on prenne des soins, il n'y a pas de contradiction. On voit des prophètes qui ont donné des cataplasmes à des rois souffrants pour qu'ils soient guéris. Donc, on ne doit pas opposer les choses. Mais on ne doit pas quitter premièrement notre position spirituelle. Amen. On doit rester au son, fixé en Jésus-Christ. Après, c'est lui, s'il rajoute des choses, c'est lui qui choisit. Mais on doit demeurer en Jésus-Christ. C'est lui le salut, c'est lui la guérison, c'est lui le relèvement moral, physique et spirituel. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que cette position spirituelle, c'est un peu redondant ce que je vais dire, mais on n'a pas à la conquérir. Étant donné que lorsque nous sommes convertis, que nous avons donné notre cœur au Seigneur, que nous, comme nous l'avons chanté, nous lui avons tout donné.
Oui.
Dieu nous a déjà placés en lui, d'accord ? Il n'y a pas de conquête, le ciel n'est pas un champ de bataille où il va falloir enchaîner des trucs, des bombes, attirer son attention. Non, il nous a déjà placés en Christ. Le diable, lui, au contraire, il cherche à nous faire croire que hop, il faut s'en aller. Non, et c'est justement là. On a une très belle illustration, c'est avec le peuple juif. Dieu fait sortir son peuple d'Israël, son peuple d'Égypte, pardonnez-moi, où il était tenu esclave. Et avant même d'avoir conquis, le territoire d'Israël, Dieu avait déjà donné à Moïse les limites du territoire.
Oui.
Ils n'avaient encore rien. Mais Dieu dit déjà, alors les limites de votre pays, ce sera là, 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 là. Et après, il dit, allez-y, prenez. Et spirituellement, c'est la même chose. Et je reviens à notre sujet, l'autorité spirituelle. Dieu nous a donné l'autorité spirituelle, mais nous avons qu'à saisir, à réaliser que c'est déjà acquis. Et si vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez que beaucoup, beaucoup de batailles que le peuple d'Israël a dû mener, en fait, c'était même l'Éternel qui combattait pour eux. Oui. Ils n'avaient même pas à sortir les épées. Ça entend même Dieu envoyer soit des pierres, soit des grêlons, soit ça tombait tout seul, soit les gens s'entretuaient tout seuls. Même le peuple, ils n'avaient rien à faire. Ils avaient juste à demeurer obéissants au Seigneur. Ils avaient juste à obéir. Ils avaient juste à faire ce que le Seigneur leur demandait de faire. Et ce n'est pas toujours la même chose, d'où cette nécessité d'être renouvelé, d'avoir un cœur souple, malléable. Parce qu'avec Dieu, c'est jamais la même chose. Tenez que c'est une relation d'amour. Et c'est ainsi que pas après pas, le peuple d'Israël a pu conquérir le territoire qui était déjà accordé, déjà préparé. Et pourtant, le peuple est rentré dans ce territoire, ils ont vu des miracles et des prodiges incroyables. Ils ont vu l'intervention de Dieu, ils ont vu lorsque ils étaient obéissants des bénédictions surnaturelles, ils ont vu aussi que toutes les fois qu'ils étaient désobéissants, ça leur tombait sur la tête. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas que Dieu veut sanctionner, mais il y a effet et conséquence, tout simplement. Hein. Si vous décidez de jeter très fort votre tête sur le mur, vous allez vous faire très mal. C'est pas une punition, c'est un effet de votre bêtise, c'est tout. Mais c'est ça la vie spirituelle. Faut pas voir un Dieu comme un Dieu fouettard, au contraire, il veut vous bénir, il veut enrichir votre vie. Et malgré que le peuple soit rentré sur le territoire d'Israël et qu'ils ont vu la main de Dieu avec eux, Josué dira, ce qui pourrait peut-être être aussi notre cas. Josué chapitre 18, verset 3. Josué prend la parole, il a succédé à Moïse. Il a mené plus d'une fois le peuple au combat. Et il dira, mais jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Jusqu'à quand est-ce que vous négligerez? C'est là! C'est donné, c'est acquis, c'est nommé par Dieu lui-même. Et pourquoi vous négligez de le prendre? Secouez-vous, saisissez, levez-vous. Ils avaient juste à le partager. Ils avaient juste à le partager. Juste à dire, tiens, telle tribu, tu vas là et toi, tu vas là. Mais même ça, ils étaient quoi? Mais je ne sais pas, peut-être encroutés dans une sorte de confort, de satisfaction. Pourquoi aller plus loin? On est bien là. Pourquoi chercher ailleurs? Mais la logique en tant qu'enfant de Dieu peut être la même, mes bien-aimés. Et je me place en premier sur cette liste de paresse spirituelle. J'ai mon chez-moi, j'ai ma douche, mon frigo est plein. Je vais à l'église, il y aura du chauffage, ça va être sympa, il y a un musicien. Et après? Est-ce que notre vie spirituelle n'est pas au niveau de la négligence? Est-ce que nous sommes au niveau de la stratosphère? Ou est-ce qu'il y a cette aspiration à conquérir, à prendre, à saisir ce que le Seigneur nous a déjà accordé, ce qu'il nous a listé? Alors peut-être que ce ne sera pas pour notre vie, c'est vrai. Mais ce sera certainement pour le salut des âmes. Ce sera peut-être pour nos familles. Ce sera peut-être pour ce pays de France qui a besoin d'être sauvé. Savez-vous combien de personnes nous devons sauver dans ce pays d'Ancenis? 60 000 âmes. Il y a 60 000 habitants dans le pays d'Ancenis, mes bien-aimés. Si nous nous contentons de notre petit truc, sympa, on est bien, on s'aime, on se fait un gros bisou, hein, on restera au niveau de la stratosphère. C'est bien, hein? Mais le Seigneur nous invite à établir d'autres frontières spirituelles. Amen. Alors je vous invite ce matin à avoir une première frontière. Tac, super. Nos domaines d'influence. Alors il est dit, ils chasseront les démons. Vous avez eu beaucoup de démons dans l'église?
Non.
Qu'est-ce que la Bible appelle les démons? Ce sont des puissances spirituelles. C'est-à-dire, ce sont, comme on l'avait déjà dit, elles sont qualifiées d'autorité. C'est-à-dire que ce sont des esprits dirigés par le diable et qui sont là pour détruire, contrecarrer le plan de Dieu. Il y a deux erreurs à éviter dans le sujet de la démonologie. La première erreur, c'est celui de les nier. Oh non, les démons, faut pas exagérer. C'était pour faire peur aux gens. Le démon existe, oui. Le diable existe, et Dieu a même prévu un endroit pour eux qui est appelé l'enfer. Et Dieu avait destiné l'enfer pour le diable et les démons, mais comme toute partie politique ou toute association de malfaiteurs, quiconque vive selon les principes du diable et des démons, bah, finiront par passer l'éternité avec eux. Non pas que ce soit une punition, mais comme on disait tout à l'heure, c'est une causalité. Si l'homme préfère vivre selon l'esprit des démons et l'esprit du diable, bah alors il va passer l'éternité selon son choix qu'il fait aujourd'hui. Vous comprenez ça? Il n'y a pas là de crainte au milieu de nous en disant « ouais, il cherche à nous faire peur ». Non, on est en train de parler de causalité, c'est tout. Si quelqu'un aime l'alcool, il vivra les conséquences de son alcool. On ne cherche pas à faire peur, il y a des effets, des conséquences. L'autre erreur à éviter, c'est celui de nous focaliser constamment sur les démons. Bien sûr, ils sont là. Ce sont des êtres spirituels. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui nous observent en ce moment. Peut-être que, justement, vous n'avez pas eu la sensibilité spirituelle, mais certains sont peut-être en train de bagarrer intérieurement, ils ne savent pas ce qui se passe. C'est justement ça. Mais l'erreur serait de focaliser toute notre attention sur eux. Et on va détailler ces deux explications. Nier leur existence, c'est comme fermer les yeux sur la moitié de la Bible. Parce que toute la Bible nous parle de ces puissances spirituelles mauvaises. Si vous dites non, les démons ça n'existe pas, non, chasser les démons, on ne voit pas de quoi on parle là. Alors arrachez toutes les pages où c'est écrit démons, mauvais esprits, et vous verrez qu'il ne reste plus grand chose de votre Bible. Il y a ce monde spirituel occulte que nous devons prendre en compte. J'ai voulu prendre une image, je ne sais pas si elle est très juste, mais nier l'existence des mauvais esprits, des démons, ce serait comme vouloir conduire votre voiture, mais sans jamais tenir compte du vent. Ça vous fait bizarre parce que quand on conduit, on est toujours en train de lutter contre le vent. Le seul fait de vous déplacer avec votre véhicule, vous créez un courant d'air qui déstabilise votre véhicule. On est d'accord là? C'est pas...
Oui, oui.
Je suis allé pas très longtemps à l'école, mais j'ai appris que tout déplacement de corps crée une perturbation. Donc quand vous conduisez, vous n'avez pas conscience, mais constamment, lorsque vous rectifiez, c'est parce que nous sommes en influencés par les vents. Alors on le ressent beaucoup plus quand on dépasse un camion, quand il y a une bourrasque, hop, on redresse. Mais imaginez un seul instant, oh non, non, le vent, ça fait rien du tout, ma voiture, elle fait 900 kg, elle est grosse, elle est lourde, elle est grosse. Non, non, moi le vent, j'en tiens pas compte. Mais vous n'allez pas faire longtemps, hein. Et vite vous retrouvez dans le fossé, à gauche, à droite. Et spirituellement, c'est pareil. Peut-être que vous n'avez pas l'impression dans votre vie spirituelle des influences des mauvais esprits, mais ils sont toujours au travail. Quand on parlait tout à l'heure que le Seigneur nous a placés dans son cœur, au centre de la cible. Mais le diable, au quotidien, avec séduction, avec stratégie, quand il cherche à nous déplacer de notre position spirituelle, bien sûr, il ne vient pas avec des grosses Santiago, une Kalachnikov et des grosses menaces avec des lunettes noires. Il dit, hey, t'as déplacé de là ! Non ! On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Et il nous est dit que le diable, il est menteur, il est séducteur. Et il faut que nous apprenions à veiller sur cela. Le diable se déguise. Le diable se déguise afin de vous séduire. Et il y a une réalité d'un monde spirituel occulte. Mais nous n'avons pas à avoir peur. Parce que si nous sommes en Christ, c'est tout à fait normal qu'ils nous influencent, qu'ils cherchent à nous influencer, mais si nous demeurons fermes en Christ, alors ils finiront même par nous lâcher prise. Quand on parlait tout à l'heure du coup de la voiture, continuellement, même quand il n'y a pas de vent, votre propre déplacement de véhicule crée des perturbations. On le ressent, le vent, quand il y a quand il y a de la tempête. Et de temps en temps, on ressent comme quand on déplace un camion ou qu'il y a des bourrasques, là, il y a des moments un peu plus forts. Et bien, spirituellement, c'est pareil. Il y a, je veux dire, une ordinaire de vie spirituelle où, effectivement, le seul fait de demeurer en Jésus-Christ, dans la prière, dans la piété, fait qu'on va à peine ressentir ce combat spirituel. Et puis, il y a des périodes de vie où, waouh, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, là? On dirait que le sort s'acharne sur moi. Même les païens le disent. On dirait qu'il y a une lourdeur, il y a quelque chose. Eh bien, il faut que vous réalisiez que cette lourdeur spirituelle, elle vient de ces mauvais esprits. Et puis, il y a des fois, c'est faut s'accrocher. Alors là, quand Jésus parle du pouvoir qu'il nous a donné de chasser les mauvais esprits, alors allons jusqu'au bout de la logique. Il est en train de parler de ceux qui sont carrément possédés par des démons. C'est pour ça qu'il n'y a pas à flirter ni à jouer avec les mauvais esprits. Nous n'avons pas à avoir peur, tant que nous sommes en Christ, nous sommes protégés. Mais c'est vrai qu'il y a des hommes, des femmes qui sont possédés par des mauvais esprits. Et Dieu nous a donné, vous a donné, m'a donné le pouvoir de chasser ces esprits. On verra ça tout à l'heure. L'autre dérive, c'est de vouloir les voir partout. Oh, il y a des démons partout. Oh, alors, j'ai même entendu une fois le démon de la gourmandise. Il y a eu le démon, alors attends, une réunion de jeunesse, un gars, il y a le démon de la somnolence, waouh. Donc si vous avez les yeux qui vous appuient, c'est peut-être un démon. Non, c'est une blague, c'est une erreur, stop. Donc la folie aussi, c'est de vouloir focaliser et que tout devient diabolique ou démonique. Non. On est corps avec des effets corps, on a des émotions, il y a des effets émotionnels, et puis il y a une réalité spirituelle. Mais c'est pas parce que les démons existe qu'il faut focaliser tout notre... Oh, t'as un démon du poil blanc, là, fais gaffe. Ah, hein, ouais. Enfin, je le préviens. Hein. Non, mais vous voyez, après, on peut en mettre partout, quoi. Mais on dit ça en plaisantant, ça permet un peu de déramiser, mais oui. Mais il y a une autre réalité spirituelle. C'est que le diable aime focaliser notre attention sur lui. Et c'est là qu'il y a aussi la stratégie du diable. C'est qu'en voulant focaliser notre attention sur lui, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne de l'importance, tout simplement. Oui. Et plus on prie sur lui, et plus on commence à focaliser notre attention, et plus on lui donne de l'autorité sur nos vies. Parce que plus on fait attention à lui, et plus il est content. Parce que notre attention, notre logique, notre perspective va focaliser sur lui, et plus sur Jésus. C'est sur lui qu'il faut focaliser. Oui. Même si un jour vous êtes devant un homme qui est possédé. Mais ne parlez pas aux démons, parlez à Jésus. C'est tout.
Mais oui.
C'est tout. Pas peine, toi, le démon, enfin ceci. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Il disait quoi? Sors de là. Oui. Basta. C'est tout. On ne voit pas Jésus qui à un moment a eu un entretien particulier avec ses disciples pour leur expliquer la hiérarchie des démons. Pas du tout. Pas du tout. Et quand les disciples ont commencé à chercher à comprendre, mais pourquoi est-ce que nous on n'a pas réussi à chasser? Les gars, C'est à cause de votre incrédulité, ok? Et puis il y en a certains, il faut prendre du temps dans le jeûne et la prière. Ok? Alors cherchez pas à savoir s'il est fort, pas fort. L'essentiel, c'est que vous fixiez, que vous grandissiez dans la foi, dans l'autorité spirituelle. Amen. Donc, ne focalisons pas, faisons attention à tous ces discours qui chercheraient à vous donner des explications sur les démons. Ça n'a aucun sens, aucune utilité. Ça n'a aucun fruit. Celui sur lequel nous devons focaliser, c'est Jésus. Amen. Mais même s'il y avait une armée de démons autour de vous, vous invoquez le nom de Jésus. Amen. Ils sont déjà dépouillés, ils sont déjà anéantis, ils sont déjà détruits. Alors qu'est-ce qu'on a à chercher à connaître leur nom, leur prénom, la situation où est-ce qu'ils habitent, leur taille? Ça n'a aucun sens. Tout ça, ce sont des stratégies du diable afin de vous éloigner du cœur de votre cible et que vous quittiez cette autorité spirituelle. Qui peut chasser les démons, dites-moi? Selon le verset 17. Dites-moi, qui peut chasser les démons?
Ceux qui croient en nous et qui sont baptisés.
Voilà. Voici les signes. Les signes, hein, qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui a l'autorité de chasser les démons?
Ceux qui auront cru.
On est d'accord? Le fait de chasser les démons n'est pas une spécialité de pasteur. On va revenir dessus, vous inquiétez pas. Parce que ce n'est pas une question de qualification. C'est une question de foi. C'est une question d'autorité spirituelle. C'est une question qu'on a bien compris où était notre positionnement spirituel. Il n'y a pas de qualification. Et comme on l'a vu, et c'est vrai que Jésus, à un moment, il parle à ses disciples, il leur donne le pouvoir de chasser les démons. Mais dans quel but? D'annoncer l'évangile. C'était des signes qui accompagnaient l'annonce de la parole. C'est pas qu'il était particulièrement formé. D'ailleurs, il n'a pas fait un cours spécial sur la démonologie. Il n'a pas pris une semaine spéciale en séminaire spécial pour chasser les... Rien du tout, tout ça. Il dit, je vous donne l'autorité et vous y allez, vous prêchez l'évangile, vous chassez les démons. Amen. Et ils y sont allés. Ils ont prêché l'évangile. Et ils étaient ébahis. Après, ils sont revenus. Oh, si t'étais là, t'aurais vu les démons dégarpiller. Mais je les ai vus, vous inquiétez pas, les gars. Oh, mais c'est incroyable! Ils étaient tellement fourrés qu'ils en avaient même passé l'envie de manger. Parce que ce qu'ils avaient vécu, ils étaient eux-mêmes surpris de l'autorité qu'ils avaient. Ils n'avaient pas eu des cours. Ils ne sont pas partis à New York, à Canada, ou je ne sais pas trop où, pour apprendre à chasser les démons. C'est la foi, l'autorité spirituelle. Et ça, on l'a déjà. Alors, pourquoi est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a certains qui auraient une certaine réticence? Alors, j'ai deux petites anecdotes à vous raconter là-dessus.
Un jour,
j'ai régulièrement des appels téléphoniques de personnes qui ont des problèmes occultes, et c'est dans toute la francophonie. Et j'en ai un, il m'appelle, il m'expose son problème, je lui explique la cause de son problème, et comme ils ne sont pas forcément dans la région où j'habite, bah, ma première démarche, c'est de les dire, allez à l'église la plus proche, on priera pour vous, on chassera le démon, son nom, et vous, continuez à vous attacher à la parole de Dieu. Et je me dis toujours, de manière assez naïve, le mieux c'est qu'ils soient à l'église la plus proche de chez eux, quoi. Pas peine de faire 50 km s'ils en ont une avant. Donc à chaque fois, je leur donne l'adresse de l'église évangélique la plus proche de chez eux. Et je leur dis toujours quand même, si jamais vous avez un problème, ça ne marche pas, vous me rappelez et puis on verra une autre solution. Le monsieur, il est content, il dit merci beaucoup, vraiment. Et il me rappelle deux semaines après, je vous appelle parce que j'ai appelé le pasteur et quand je lui ai expliqué mon cas et que je lui ai demandé qu'il prie pour chasser les démons, il m'a expliqué qu'il n'était pas qualifié pour cela. Mmh. J'étais sur mon fauteuil, je n'ai pas qualifié pour ça. Bon, on ne s'est pas tardé sur la conversation, on l'a passé à autre chose, mais vous comprenez combien par manque de foi, on peut passer à côté de la bénédiction. Vous êtes tous qualifiés au nom de Jésus, mes bien-aimés. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, si vous êtes enfant de Dieu, si vous vivez dans la sanctification, si vous demeurez en Christ, vous êtes qualifiés. Parce que c'est pas vous qui allez faire chasser les démons.
Non,
c'est... Quand il vous voit, il a plus envie de rigoler. Mais quand vous invoquez le nom de Jésus, le sang, la croix, la victoire de Christ, alors les démons, ils déguerpissent. C'est la seule chose qui les fait fuir. Et ça, vous l'avez, cette autorité. Vous l'avez tous. Une autre anecdote qui est à l'antipode. Un jour, je vais prier pour un homme Là aussi, un pasteur qui voulait pas trop s'occuper de lui, où il tardait, et cet homme, tous les soirs, il était possédé, il était plié en deux, il avait des colonnes de feu qui rentraient dans son abdomen, il en pouvait plus, il avait perdu 40 kilos en 2-3 semaines, il était, chaque nuit, il croyait qu'il allait mourir, alors avec un ami, on va prier pour lui, on prie au nom de Jésus, il est délivré, il est vidé comme un sac, parce que ça fatigue ceux qui sont possédés et qui sont délivrés. Deux semaines après, il m'appelait, il me disait « Oh, c'est formidable !» Mais tu sais quoi, j'étais avec mon copain et puis on a senti qu'il voulait être prié, on a prié pour lui et puis il a été délivré. Amen. Le mec, il a agi par la foi. Il n'était pas pasteur, il n'était même pas passé par les eaux du baptême. Mais il a réalisé que la puissance de Dieu qu'il avait délivré pouvait être aussi en lui.
Amen.
Amen, et c'est vrai. Sinon, il n'aurait pas été une nouvelle nature, une nouvelle création. Et quand il voyait la détresse d'un homme qui était dans la même situation, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai dit, Benoît, il a prié pour moi, je priais pour toi, ok? Il a prié, le démon est parti. Il avait quelle qualification, cet homme? Je ne sais même pas s'il avait eu le temps de lire tout le Nouveau Testament. L'autorité spirituelle n'est pas en vous, elle est en Jésus-Christ. Amen. L'autorité spirituelle ne dépend pas de vos œuvres, elle dépend de votre position spirituelle. Et c'est à nous de nous replacer dans notre identité, dans notre vocation, dans notre rôle, dans notre mandat que Dieu nous a donné. Allez annoncer l'évangile. Et voici les signes qui accompagneront. Ce sera une conséquence. Vous avez l'autorité. Alors c'est vrai, et j'ai entendu que de temps en temps, il peut y avoir un manque de... Je ne sais pas, je ne voudrais blesser personne par ce mot-là, mais... d'assurance spirituelle ou peut-être de maturité spirituelle, je ne sais quel mot le plus approprié. J'ai entendu des réunions où quelqu'un a manifesté des réactions occultes dans sa vie et des chrétiens qui ont pris peur et qui sont partis. Mais il n'y a pas à avoir peur, mes bien-aimés. Si vous voyez un jour une manifestation spirituelle, qu'est-ce qu'il faut faire?
Priez.
Priez.
Au nom de Jésus.
C'est tout.
Amen.
Vous n'êtes pas obligé de crier. Vous n'êtes pas obligé de vous lever. Vous restez dans votre position spirituelle. C'est pas les agitations de main, c'est pas l'intensité de la voix qui fait chasser les démons, mes bien-aimés.
La foi.
Et de temps en temps, il peut manquer d'assurance ou de maturité spirituelle chez certains. Ah oui, on croit en Jésus. Ah oui. Oh mais le démon. Oh non, pas chez nous. Mais si. Ça fait partie de la vie spirituelle. Il y a du beau temps et il y a de la pluie. Il y a de la grêle et il y a
de l'orage.
Mais la vie spirituelle est faite d'une multitude de réalités spirituelles bénéfiques, et c'est ce qu'on communique ici. Mais il y a aussi une réalité occulte. Mais vous avez l'autorité là-dessus. Amen. Vous avez l'autorité pour chasser les démons. Vous avez l'autorité en vous. Parce que vous avez reçu le Seigneur dans votre vie. Et que c'est à vous de vous positionner. Et de regarder les choses droit devant vous. Et de dire maintenant, je ne veux plus me laisser faire. Amen. Je ne veux plus tourner le talon. Je ne veux plus vivre comme si j'étais triste, ou j'étais impuissant, ou si je n'étais pas encore qualifié. Il faut combien d'années de conversion pour être qualifié? Il n'y en a pas.
Non.
C'est une position spirituelle que le Seigneur nous a donnée. Amen. Alors j'ai mis... Est-ce qu'il y a un autre truc où j'ai oublié moi? Ah non, je ne vous ai pas tout mis. Mais est-ce que je vous donne quelques références? Matthieu, chapitre 10, verset 1er, c'est là où il est écrit que, ayant appelé les 12, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Amen. Matthieu, chapitre 10, verset 11, je dis pour ceux qui prennent des notes. 1 Jean, chapitre 4, verset 4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en vous est plus grand. Même si vous avez l'impression que vous êtes impressionné par la situation, vous fermez les oreilles, vous dites à la personne, tu te concentres sur Jésus, et je te dis que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Et là, vous priez au nom de Jésus. Romains, chapitre 8, verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Amen.
Qui? Personne, même pas les... Même si c'était le diable en personne qui était devant vous. Celui qui est en vous, c'est Christ. C'est Christ, amen. Le diable n'est qu'un instrument, il n'est qu'une créature. Regardez dans les évangiles, même lorsqu'il y avait une légion de démons, je ne sais plus, ça fait presque 12 000 démons. Oh, peut-être quoi? Mais c'est eux qui sont à genoux devant Jésus. C'est eux! C'est eux qui se prosternent devant Jésus. Parce que Jésus est celui qui a la toute puissance, la toute autorité.
Amen.
S'il y avait une représentation à faire, on devrait créer l'univers et les démons sont grands comme une tête d'épingle. Excuse. Nous n'avons pas à les négliger. Mais nous devons réaliser la puissance qui est en nous, qui est infiniment plus forte que toutes ces puissances diaboliques. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Elles sont déjà détruites. C'est ce que nous rappelle encore Colossiens, chapitre 2, verset 15. Il les a dépouillées, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé d'elles à la croix. Il a déjà vaincu toutes ces puissances spirituelles. On verra que c'est vrai aussi pour nos vies intérieures. Et on verra ça plus tard. C'est ce qui, quand il nous est parlé, de pouvoir prendre les serpents, ça évoque ça. Mais là, la première autorité que Dieu nous donne, c'est de pouvoir chasser les démons. Là où vous voyez, là où vous entendez, là où il y a une réalité d'hommes ou de femmes qui peuvent être possédés, influencés par ces mauvais esprits. Vous avez tous, chacun, parce que vous avez reçu Jésus dans votre cœur, que vous lui obéissez, que vous lui plaire, et que vous laissez renouveler par le Saint-Esprit, alors vous avez autorité et puissance et efficacité. Oui. Mais il n'y a pas de doute, vous avez l'efficacité. Ils sont déjà... Les démons sont... J'appelle ça, moi, des épouvantails. Tout le monde sait ce qu'est un épouvantail? Ouais. Les gens de la ville, ça va? C'est là, dans le champ? C'est un peu poussé par le vent. Et les oiseaux, ils sont... Oh, il y a quelqu'un dans le champ, on ne peut pas y aller. Parce que l'épouvantail, il va rien faire, il va rien faire, il fait peur. Mais le démon, c'est pareil, il cherche à impressionner, il cherche à faire peur, il cherche à déstabiliser, mais il n'a aucune influence sur vos vies, aucune. Sauf si vous lui laissez l'occasion d'avoir de l'influence, par la peur, par le doute, par l'incrédulité, par une méfiance. Alors là, oui, vous finissez par lui donner de l'autorité. Mais la réalité, c'est que les démons ne se comptent des épouvantails. Amen. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen.